D'abord, je voulais remercier, bien entendu, Sylvie Goudbaron, qui est la directrice de la Maison des écrivains et de la littérature, et Laurence Bobis, directrice de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. J'ai une dette particulière vis-à-vis d'Ismaël Jude Ferca, qui s'est fait un peu l'agent de liaison, en quelque sorte. Et surtout, où est-ce qu'elle est, Marie-Thérèse? Voilà, Marie-Thérèse Petiot, qui a écrit ce texte, quoi. C'est la co-autrice de ce texte, puisque c'est elle qui a été la pourvoyeuse des archives que je ne pouvais pas aller consulter depuis Los Angeles. Et je suis très bien placée pour savoir que le choix des archives détermine un texte en grande partie. Donc voilà, j'ai nommé Marie-Thérèse co-autrice de ce texte pour ses éléments, bien sûr, et pas pour ses défauts que j'assume entièrement. Alors d'habitude, il y a une grande différence que je fais entre les conférences qui sont lues et celles qui sont prononcées sans lire un papier. Je déteste lire un papier, je ne peux pas, malgré les 12 ans ou 15 ans maintenant que je suis aux États-Unis, je ne parviens pas à parler tout à fait, comme d'improviser complètement en anglais. Je peux le faire en français, et là j'ai écrit ce texte qui va être publié. Donc je m'excuse d'avance d'être le nez dans mes papiers. J'essaierai de lever la tête de temps en temps. Il y a 25 ans, je visitais pour la première fois la bibliothèque du Vatican en compagnie du préfet d'alors, un dominicain irlandais, le père Leonard Boyle, paléographe et médiéviste réputé, formé à Oxford. Le souvenir très vif que j'ai gardé de cette visite est dû en grande partie à la personnalité du père Boyle, avec qui j'ai traversé bien des salles au Vatican, dont les portes s'ouvraient comme par magie dès que le préfet saluait d'un antique « salve » avec un accent anglais en plus qui rendait la chose encore plus drôle, les gardes suisses qui en défendaient l'entrée hallebardent au poing. Le père Boyle accordait volontiers sa confiance aux visiteurs du monde entier. Il m'avait laissé consulter, à loisir et entre autres, la Divine Comédie illustrée de la main même de Botticelli ou le manuscrit des Bucoliques de Pétrarque dans une petite salle où j'étais seule et sans aucune surveillance. Je précise qu'à l'époque, j'avais 26 ans. Il était plus réservé quant à la confiance à placer en Dieu. J'ai encore dans l'oreille la réponse qu'il fit à un théologien suédois qui lui posait la question de la postérité de ses travaux lorsqu'il aurait gagné le paradis. « Because you believe in such things ?»« Parce que vous croyez dans ce genre de choses ?» Réponse qui valait, bien entendu, autant pour la survie de son œuvre que le salut de son âme, et qui laissa le Suédois absolument interdit. Plus belle encore fut la réponse qu'il livra à ma sagacité lorsque je lui posais la question inévitable et bien naïve, des livres mis à l'index. À titre de rappel, je précise que l'index Librorum Prohibitorum était cette liste de livres pernicieux, jugés immoraux ou contraires à la foi, interdits par l'Église depuis le Concile de Trente, c'est-à-dire la moitié du XVIe siècle. Il figurait, entre autres, et pour se cantonner seulement à la France, Montaigne, Rabelais, Descartes, Malebranche, La Fontaine, Fénelon, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Balzac, je m'excuse, Baudelaire, Flaubert, Zola, Michelet, Hugo, Victor Hugo. Autant mettre Dieu à l'index, hein, tout de suite. Sand, Larousse, Bergson, Gide. Alors Gide, il y a une précision, c'est pour toute son œuvre. Simone de Beauvoir, auxquelles s'ajoutent Maïmonide, Giordano Bruno, Machiavel, Bentham, Spinoza, Hume, John Stuart Mill, Kant, Swift, Swedenborg, Defoe, Heine, Moravia, j'en passe, et les meilleurs, pour citer Victor Hugo. On notera en passant que Mein Kampf ne figurait pas sur cette liste. L'index sera définitivement aboli le 14 juin 1966 par Paul VI. Où avait-on remisé au Vatican même les livres mis à l'index? Dans quelle pièce secrète? Dans quel enfer, à l'image de celui de la Bibliothèque nationale, se consumaient donc les proscrits magnifiques? Le père Boyle affecta l'étonnement. tous les livres de l'index ont toujours été disponibles à la bibliothèque du Vatican, ouverte à ceux qui ont formulé la demande. Devant ma mine dubitative, il ajouta superbement et en manière de chute, mais il n'était pas catalogué. Or, comme chacun sait, un livre non catalogué est un livre qui n'existe pas. Un introuvable, autant dire un condamné, à l'image du Hollandais volant, astreint par la justice divine, aéré sur les mers jusqu'à la fin des siècles, un fantôme en somme. C'est au fantôme de la bibliothèque de la Sorbonne que j'ai décidé de me consacrer aujourd'hui. Fantôme au sens néanmoins exactement inverse qu'à la bibliothèque du Vatican. Je n'entends pas disserter sur des ouvrages existants, disséminés ça et là dans les rayonnages et non catalogués, pour la bonne raison que j'eusse été incapable de les trouver, mais évoquer au contraire tout un peuple de volumes absents qui manquent en place, comme on disait autrefois à la Bibliothèque nationale, et qui figurent pourtant dans les inventaires. Les disparus, les volés, les empruntés sinédiés, les perdus, les égarés, les détruits, les vagabonds, qui constituent l'envers de la tapisserie, une sorte de bibliothèque en creux, dont l'existence est seulement contenue dans des listes vertigineuses et toujours incomplètes, manuscrites et désormais numériques. Concrètement, la défection de ces livres est parfois signalée sur les étagères par une planchette indicatrice, aussi appelée en termes de bibliothéconomie un fantôme, soit une pure matérialité, un bout de carton, dénotative d'une pure idéalité, l'absence, à l'exemple de l'ectoplasme dessinant dans l'atmosphère les contours d'un vide. Comment lire l'ensemble de ces disparitions, de ces spectres aux traces subtiles, comme on parle de matière subtile au sujet des atomes de l'air? Il ne s'agira pas tant de donner du sens à une collection par définition aléatoire, mais d'interroger le statut du manque, de la vacance, du retranchement à l'intérieur de l'organisme vivant qu'incarne toute bibliothèque, de même qu'on analyserait un tableau à partir de ses réserves, à savoir ses parties vierges de la toile, non recouvertes de peinture, ménagées au milieu des touches de couleur et comme elles, intégrales à la structure de l'œuvre. Si les absents ont toujours tort, certains ont plus de tort que d'autres. Sans rentrer trop avant dans les détails techniques de l'enregistrement des livres manquants à la Sorbonne, précisons tout de même qu'il y a une gradation dans le statut de l'absence. Au départ, le terme toujours employé est celui de manque, suivi de la date où celui-ci a été constaté, le livre fautif passant au catalogue de disponible à manquant. Après un an de recherche, si celles-ci ont été infructueuses, on parlera d'absence avérée. Au bout de 2 ans, on intronisera le livre comme disparu, disparaîtra avec lui la notice au catalogue si la bibliothèque n'a pas réussi à le racheter. En simple terme logique, on peut donc en conclure que ce qui a disparu ne manque plus. Les listes de disparus sont disparates. Ce sont d'anciens registres calligraphiés, des fiches manuscrites, des fichiers informatiques. Leur recoupement est malaisé et tout aussi vain l'espoir de dresser l'inventaire exhaustif de ces milliers de volumes dont le nombre grossit inévitablement chaque année. Quant au motif de cette disparition, de la perte au pillage, il varie à grande échelle. Je m'attacherai à 3 grandes catégories, les livres volés, les livres empruntés non rendus et les livres détruits. J'ai toujours eu un faible pour les voleurs. Je suis loin d'être la seule, si j'en crois la réaction ordinaire devant une scène de braquage ou de cambriolage au cinéma ou à la télévision. Quand arrive le moment de la poursuite par la police, le public est toujours du côté des voleurs, dont on espère, le cœur battant, qu'ils s'en sortiront. Mais j'ai aussi un faible très prononcé pour la chose publique, si bien que le vol en bibliothèque agit sur moi comme une douloureuse contradiction qui ne va pas cependant jusqu'au déchirement. L'attachement au bien commun l'emporte sans difficulté sur le larcin, d'autant que celui-ci est le plus souvent commandé par de viles motivations financières et privées. Le voleur de bibliothèque est la figure inversée du voleur héroïque par excellence, Robin des Bois. Il dérobe au peuple pour s'enrichir personnellement ou augmenter les trésors d'un collectionneur trop coi pour opérer lui-même. Même Arsène Lupin, dont les malversations sont plus ambiguës, n'a jamais volé de livres dans une bibliothèque publique. Le 14 mai 1908, à l'époque précisément où les aventures du gentleman cambrioleur passionnent les foules, un nommé Auguste Breuil, se disant étudiant français, je cite les documents trouvés par Marie-Thérèse, est arrêté en Allemagne. Outre les livres volés à la Bibliothèque royale de Berlin, la police retrouve à son domicile 62 ouvrages dérobés à l'Université de Paris et 45 à l'École pratique des hautes études. Hormis quatre livres de la fin du XVIe siècle et du tout début du XVIIe siècle, la plupart des éditions retrouvées dans la chambre de l'étudiant supposé datent de la fin du XIXe siècle et sont des classiques de l'époque, comme « Histoire des Romains » de Victor Duruy, en 7 volumes, « L'hellénisme en France » d'Émile Heger, « Histoire grecque » d'Ernst Cursus, pardon, « Deux grammaires hébraïques », un dictionnaire syriaque latin, les œuvres de Descartes et de Spinoza, ainsi que divers volumes sur les religions, d'une thèse sur les idées religieuses en Palestine au temps de Jésus-Christ, à un traité sur la religion védique. Le Vade Mecum, très partiel, du parfait humaniste, en somme, complété par les œuvres poétiques de Victor Hugo, ainsi que Notre-Dame de Paris, recueils incontournables. L'ensemble n'ayant pas une grande valeur vénale, on est en droit de se demander si Breuil ne se constituait pas une bibliothèque personnelle. En réalité, cet ancien séminariste n'en est pas à son coup d'essai. Arrêté en 1906, il avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis. Non seulement il revendait les livres des collections publiques à des libraires, mais exerçait aussi ses talents dans les librairies. Le vol de la Sorbonne s'accompagne d'un détail maladroit que je persiste à trouver émouvant. Dans l'enthousiasme de ses nouvelles appropriations et afin de masquer son délit, Auguste Breuil s'était confectionné un cachet personnel sur le modèle rond de celui de l'Université de Paris. Même caractère, même encre, même disposition à l'intérieur du cercle. À ceci près que « bibliothèque de l'Université de Paris » devient « bibliothèque de M. Auguste Jean Breuil à Paris ». Le nom patronymique du voleur, par le miracle d'une transsubstantiation typographique, se substituant donc au mot « université ». Je n'ai pas eu le loisir de vérifier si les livres retournés d'Auguste Breuil portaient toujours aujourd'hui ce cachet, dont la particularité est de signer et d'effacer dans le même mouvement son forfait. Les livres substitués par Auguste Breuil n'auront donc déserté la bibliothèque que de façon temporaire. Mais ne dit-on pas des fantômes, justement, qu'ils sont des revenants ? Ceux-là sont plus nombreux qu'on pourrait le croire pour une raison surprenante. Bien des livres volés, lorsqu'ils ne sont pas retrouvés par la police, sont spontanément restitués. Les exemples abondent. Le 8 septembre 1911, le garde de la Sorbonne trouve devant le grand amphithéâtre 6 paquets de livres et une serviette. En tout, 41 volumes retirés frauduleusement à diverses bibliothèques universitaires, dont celle de l'École normale, puis anonymement déposé sur les marches de la Sorbonne, comme on confiait autrefois les nouveau-nés aux portes des églises, par un inconnu, dit le rapport, peut-être une femme qui, à 7h du matin, avait demandé si c'était bien là la Sorbonne. Est-ce le voleur ou la voleuse en personne qui efface sa dette, ou les coupables se servent-ils d'un intermédiaire, comme le curé de Saint-Séverin qui viendra remettre à la bibliothèque une dizaine de volumes, dont les œuvres de Ronsard et de Shakespeare, sans doute déposées là par un voleur pénitent. Toujours est-il qu'en 1947, la pratique semble toujours vivace. À cette époque, le conservateur de la bibliothèque, Jean Bonnereau, poète et éditeur de la correspondance de Sainte-Beuve, adresse une plainte au recteur de l'Académie de Paris après un énième dépôt anonyme. Et on sent que le pauvre Bonnereau est un petit peu agacé. Aucun de ces ouvrages n'a été emprunté régulièrement. Ils ont été dérobés dans la salle de lecture au cours de l'année. En outre, ce n'est pas le premier paquet de livres rapporté à la bibliothèque. Depuis le commencement de septembre, plus de 100 volumes ont ainsi été déposés sur les bancs devant la porte de la bibliothèque ou même par terre dans les galeries. J'ajoute que certains livres ont dû être dérobés au bureau car ils portent seulement le numéro d'entrée, mais ils n'ont ni cote ni timbre, ce qui semblerait indiquer que c'est un usager de la bibliothèque, au courant des habitudes, qui s'est glissé dans les bureaux aux heures où ils sont inoccupés. La bibliothèque, en effet, à cause du grand nombre des portes qu'elle comprend, demeure fréquemment sans aucune surveillance. On peut entrer et sortir aisément en emportant des livres comme dans un moulin. Si l'on peut déplorer avec le conservateur que, je cite, « ces vols lentement dilapident les trésors de la bibliothèque », du moins peut-on se réjouir qu'ils ne sont, pour certains, que provisoires. Cette catégorie inattendue de livres dérobés puis rendus complique et la définition du vol et la définition de l'emprunt, sans compter celle de mes fantômes revenants. Si la propriété, c'est le vol, formule célèbre qui mériterait un détour dont je ne peux pas me permettre ici le luxe, le vol n'est clairement pas la propriété. À vrai dire, je n'avais jamais pensé à cette idée de propriété provisoire qui à la fois subvertit les lois du vol, puisqu'il sera restitué, et défie les règles du prêt, puisqu'elle en récuse les conventions ordinaires, tout en en respectant le principe. Cette zone grise, je l'avoue, me plaît beaucoup en ce qu'elle réconcilie la tentation du vol et le respect du bien public dans le plaisir de la lecture personnelle et risquée qui devient dès lors une activité hors la loi. A contrario, les disparitions définitives, ou les pertes sèches, si je puis dire, sont cruelles. La longue liste informatisée des disparus après 2000, après l'an 2000, donc 4342 numéros déjà, hein, en atteste, a fortiori lorsqu'à la suite du titre, on trouve la mention « pas de renvoi possible », ce qui signifie qu'il n'existe pas d'autres exemplaires vers lesquels renvoyer le lecteur. Série dépareillée, ouvrage irremplaçable, cohérence abîmée, c'est à la lecture de ces archives qu'on mesure les dégâts perpétrés. Pas de renvoi possible pour le recueil d'études critiques de Francis Scott Fitzgerald, pas de renvoi possible pour la grammaire du Décaméron de Zvetan Todorov, pas de renvoi possible pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » dans l'édition Flammarion 1987. Désolantes, ces énumérations ne doivent pas nous faire oublier qu'il s'agit de titres disponibles selon toute probabilité ailleurs ou qui seront rachetés par la bibliothèque, parfois dans d'autres éditions. Mais encore faut-il que le rachat soit validé par l'administration. À titre d'exemple, depuis 2010, on compte dans la base de données 1073 commandes d'ouvrages destinées à remplacer les disparus, pour la plupart des ouvrages de philosophie et d'histoire, pour un montant de 30 251 euros. À côté des voleurs pénitents qui restituent l'objet de leur larcin et des voleurs sans scrupules, il y a une troisième catégorie, les emprunteurs distraits. Charles Naudier, citant le bibliographe Gabriel Peignot, rapportait « Les trois espèces d'ennemis qu'ont les livres sont les rats, les vers, la poussière et une quatrième, celle des emprunteurs. » La sentence est sévère, mais semble, en termes de dégâts, toujours justifiée. Depuis 2008, ce sont ainsi plus de 800 livres déjà qui ont été perdus par l'indélicatesse des seuls professeurs. Ces ouvrages sont pour la plupart remplacés par les responsables, ou rachetés par la bibliothèque qui, on l'a vu, consacre une part non négligeable de son budget à ces imprévus. Ces listes contemporaines sont bien sûr anonymes. Plus loin dans le temps, sur la période 1900-1940, on trouve un registre de livres perdus ou à considérer comme perdus et, plus embarrassant, de livres empruntés depuis plusieurs années, réclamés et non rapportés, qui contient le nom des professeurs délinquants. Outre qu'il y a prescription et que l'infraction est pour le moins bénigne, ces informations révèlent surtout par défaut et de façon inattendue les lectures, même égarées, des enseignants d'alors qui s'appellent Émile Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl, Julien Bindard, Alexandre Coiré ou Ernest Lavis, historien et auteur des fameux manuels éponymes, où figurait en couverture cette adresse en forme d'injonction à des générations d'écoliers, « Enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que son histoire l'a faite grande. » J'ai retrouvé en parcourant ces registres l'émotion que j'ai éprouvée autrefois à lire les fiches des abonnés de la Maison des Amis des Livres, la librairie d'Adrienne Bonnier, abonnés qui s'appelaient Aragon, Breton, Gide, Claudel, Simone de Beauvoir ou Violette Leduc. Cette invitation à une archéologie de la lecture est aussi, en filigrane, le dévoilement de la généalogie d'une œuvre en train de se construire, la divulgation de ses sources et de ses influences. Certes, on ne sera pas étonné de voir Victor Bache lire dans les années 20 une mythologie de la Grèce ou la constitution d'Athènes, d'Aristote, alors qu'il prépare son livre sur les doctrines politiques des philosophies classiques de l'Allemagne, ou de consulter à partir des années 30 le concept de symbole dans la dernière esthétique de Johannes Vogelt, ou conférence sur l'esthétique de Karl-Heinrich von Stein, lecture qui viendront nourrir le dernier volume de son essai critique sur l'esthétique de Kant. À la même époque, Émile Bavéniste se plonge dans des thèses sur le singulier et le pluriel. Il ne rendra jamais la grammaire chinoise de Georg von der Gabelens. Les lecteurs qui auraient voulu se reporter sur un autre exemplaire en seront pour leurs frais, car celui-ci est entre les mains du sinologue Henri Maspero, qui ne la restituera pas davantage. La cote de la première grammaire étant LPO 156A et de la deuxième LPO 156B, je me suis demandé si les deux hommes ne s'étaient pas entendus pour se partager le tome 1 et le tome 2. Mais vérification faite, l'édition est en un volume, si bien qu'il s'agissait sans doute de deux éditions différentes. À côté de Maspero, les exigences de l'ordre alphabétique placent le célèbre auteur de l'essai sur le don, Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, neveu et héritier de Durkheim. Or, comment résister à constater que le théoricien du don et du contre-don, articulé autour de trois principes, l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre, ou de l'échange comme matérialisation des relations sociales, avait tendance à pratiquer l'emprunt sans contrepartie, puisqu'entre 1906 et 1932, ce sont 10 livres non restitués dont il se rendra responsable, pour la plupart, des monographies sur l'Afrique, le Congo ou les Pygmées. Je pourrais continuer longtemps à digresser sur les prêts non-retour. Je choisis de m'arrêter ici et d'attirer l'attention sur le fait que le registre en question s'arrête en 1940, année qui sera fatale à la plupart des noms que je viens de citer. Né dans une famille juive de Budapest, Victor Bache, qui s'était battu dans sa jeunesse en faveur de Dreyfus, s'était très tôt engagé contre l'extrême droite comme militant socialiste et fondateur de la Ligue française pour les droits de l'homme. En 1940, son appartement parisien et sa bibliothèque sont pillés par les Allemands et il doit se replier avec sa femme Hélène en zone libre. Le couple sera assassiné en 1944 par la milice de Lyon, dirigée par Paul Touvier, et par la Gestapo, qui criblèrent de balles Victor et Hélène Bache, respectivement âgés de 81 et 82 ans. Émile Bavéniste, fils d'instituteur de l'Alliance israélite universelle dans l'Empire ottoman, agrégé de grammaire à 20 ans, sera fait prisonnier en 1940, mais parviendra à s'évader et à se réfugier en Suisse jusqu'en 1945. Il sera réintégré dans la chaire de grammaire comparée au Collège de France, dont il avait été exclu par le régime de Vichy. Henri Maspero, fils de l'égyptologue Gaston Maspero et pionnier des études taoïstes, mourra assassiné à Buchenwald le 17 mars 1945. Surveillé par la Gestapo, Marcel Mauss parviendra à échapper à la mort par miracle, mais d'après ses biographes, il fut, je cite, « moralement détruit par les horreurs de la Grande Allemagne et de 1941 à sa mort en 1950, ne mena plus qu'une existence fantomatique. » Ce sont eux aussi les fantômes de la Sorbonne, ceux qui hantent cette histoire de France si chère à la vie, et les murs de cette institution dont ils ont augmenté la réputation et le prestige, à qui je voulais ici rendre hommage. Si la guerre a avant tout détruit les hommes, les femmes et les enfants, elle a détruit aussi les livres. il est impossible d'évaluer le nombre d'ouvrages saisis par les Allemands chez les emprunteurs. D'après les archives, un certain nombre d'entre eux ont pu être retrouvés parmi les milliers de volumes ramenés d'Allemagne par les services de la récupération et ainsi remis à leur place. Mais de très nombreux ouvrages ont pu être retrouvés, soit qu'ils aient été anéantis chez des particuliers lors d'un bombardement, soit qu'ils aient été vendus au poids comme vieux papiers par des indifférents ou égarés par les emprunteurs eux-mêmes pendant l'exode de 1940. Jusqu'à la fin, la guerre menacera la bibliothèque de la Sorbonne. Le jour de la libération de Paris, le 25 août 1944, un obus allemand tiré par un canon placé près du palais du Sénat est passé au-dessus de l'école des chartes et a brisé une colonne de la chapelle de la Sorbonne, puis ayant ricoché dans la bibliothèque elle-même, une série d'éclats de la grosseur d'un poing ont brisé les vitres de la salle de lecture et perforant la croisée qui longe la verrière, ont déchiqueté une vingtaine de volumes dont certains ont été réduits en charpie. Je cite les archives. Ironie du sort, la trajectoire des éclats d'obus s'est achevée au beau milieu de la culture allemande. Parmi les 14 titres détruits, on trouve, alors malheureusement je ne suis pas du tout germaniste, je vais vous dire le titre tout de suite en français, Introduction à la philosophie de Max Dessoir, de son vrai nom Max Dessauer, philosophe juif allemand banni de l'enseignement dès 1933 et dont les écrits influencèrent Freud, The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, d'Israël Knox, émigré russe-américain dont c'était la thèse, Wagner und Nietzsche de Kurt Hildebrandt, Was ist der Mensch, qu'est-ce que l'homme de Theodor Hacker, farouche opposant au nazisme, ou le célèbre mythe du XXe siècle d'Alfred Rosenberg, l'un des principaux idéologues du parti nazi, qui sera exécuté par pendaison à Nuremberg en 1946. La bibliothèque de la Sorbonne a conservé la trace de cet événement en plaçant dans une vitrine le livre de Max Dessoir et d'Israël Knox avec trois éclats du funeste obus. Ici s'achève mon tour d'horizon des fantômes de la Sorbonne, ou plutôt mon survol de quelques exemples destinés à dessiner la carte trouée, forcément trouée, de toute bibliothèque. Car le rêve de la bibliothèque, de l'accumulation infinie du savoir universel ne peut reposer en réalité que sur le principe du manque, mot qui a la particularité de désigner l'absence de quelque chose et la souffrance due à cette absence, comme on dit que quelqu'un vous manque ou que l'on est en manque de quelque chose. Seul l'objet manquant est préférablement introuvable, justifie et légitime le principe même de la collection. Les fantômes de la bibliothèque, revenants ou disparus, se situent à la fois au carrefour et en dehors des utopies borgésiennes d'une bibliothèque de Babel, dont je rappelle qu'elle est finie. On croit toujours que la bibliothèque de Babel, c'est la bibliothèque infinie. Elle est fondée en réalité sur ce qu'on appellerait l'explosion combinatoire. C'est Internet, en fait. C'est une histoire de calcul de probabilité, mais le bâtiment lui-même est une bibliothèque finie, mais interminable. Et du livre infini, dont les pages vous filent entre les doigts, décrit dans l'admirable Livre de sable. La bibliothèque, toute bibliothèque, est infinie, parce que précisément, elle est lacunaire. À l'image du soupir en musique, ce silence qui est une note en soi, le manque et la respiration de la bibliothèque, la marque même de sa plasticité qui défie le vertige de l'accumulation, de la saturation, du fantasme de la totalité. Dans la bibliothèque de Babel, justement, Borges lui-même nous met en garde, la certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Laisser vivre et évoluer les fantômes des bibliothèques reviendrait donc à nous éviter un destin de spectre. Cette prophétie est d'autant plus pertinente dans une société non pas menacée par l'oubli, mais par l'hypermnésie informatique, par la surveillance, l'archivage et la conservation ad infinitum de nos moindres éternuements électroniques. J'observe en passant que cette même société du savoir total, dématérialisé, de la transparence et du contrôle, qui entasse et numérise, scanne et thésaurise, s'accommode aussi de la post-vérité des faits alternatifs et du montée internationale de la tentation totalitaire. Du rêve et de l'idée de bibliothèque, rêve souple, poétique, à la numérisation hyperbolique du monde, du réel au virtuel, du caractère d'imprimerie au pixel, c'est une part imaginaire autant que la conscience indispensable de la perte, a fortiori depuis Auschwitz, qui s'évanouissent. Dans le fantôme de la bibliothèque, Maurice Hollander, né en 1946 dans le silence qui a suivi l'extermination des Juifs d'Europe et qui fut aussi l'éditeur de Pérec, évoque l'existence, à la fois autobiographique et imaginaire, d'un lecteur illettré et passionné qui erre dans les rayonnages de quelques grandes bibliothèques royales et constate, je cite, « Dans les salles de lecture où les usuels sont en accès libre, tout volume manquant suppose la présence d'une fiche fantôme qui porte un nom, celui de l'emprunteur. La double absence du livre et de la fiche signe la disparition du fantôme. De ce cercle brisé était né un relief, le fantôme d'un livre absent. Retrouver la fiche manquante fut dès lors jeu et nécessité, ni par peur de la perte, ni même crainte de l'oubli, ou imposition de la mémoire, mais par désir d'installer un fantôme entre deux livres. » Les fantômes de la bibliothèque de la Sorbonne ne seraient donc pas les patients d'une bibliothèque en creux, mais les agents d'une bibliothèque en relief, à reconstituer, à reconstruire, à réimaginer, à réinventer indéfiniment. J'y range d'ailleurs bien plus que les disparus, les volés ou les détruits, les livres imaginaires, les livres jamais écrits, les livres inventés, le deuxième volume de la poétique d'Aristote, supposé porter sur la comédie, objet des spéculations d'Umberto Eco dans Le Monde de la Rose, Cardenio, la pièce évanouie de Shakespeare, à laquelle Roger Chartier a consacré une étude, les dizaines de romans projetés par Balzac à sa mort, et je les cite pour le plaisir, nous n'avons que les titres, quelquefois les plans, Philippe le Réservé, Les héritiers bois rouge, les aventures d'une idée, et même le Don Quichotte de Pierre Ménard, dont on ne lira jamais l'intégralité, puisque Pierre Ménard n'a daigné recopier que deux chapitres de l'œuvre de Cervantes. La prochaine fois que votre index glissera sur un rayonnage, que votre regard errera sur une étagère, pensez-y. Entre chaque livre, il y a un mort, il y a un fantôme, il y a un revenant, une absence incarnée, une présence imaginaire qui double, voire triple, la bibliothèque visible et tangible et qui en constitue la face cachée, secrète. À moins que la vraie bibliothèque soit celle-là, celle du souvenir et de la projection, de la mémoire et de l'imagination, bibliothèque immatérielle, inconcevable, sublimée dans le sens où la sublimation et le passage de l'état solide à l'état gazeux est de fait proprement infini. Je vous remercie.